La Cour pénale internationale est un événement essentiel dans la longue lutte contre l'impunité des criminels contre l'humanité. Le siècle qui s'achève a été souillé par des génocides sur tous les continents. Il s'ouvre avec le génocide arménien, s'achève sur le génocide au Rwanda, sinon malheureusement peut-être demain au Kosovo. Il a été aussi souillé par les pratiques totalitaires. Les dictatures sanglantes ont systématiquement recouru aux arrestations arbitraires, à la torture, aux camps de concentration, à l'assassinat collectif sur les opposants politiques ou à l'encontre de communautés ethniques ou religieuses. Comme symbole de ce siècle se dressera pour toujours, j'en suis convaincu, en son milieu, Auschwitz. Frossard disait justement que le crime contre l'humanité est facile à définir. L'enfant juif qui est jeté dans la chambre à gaz parce qu'il est juif symbolise ce crime contre l'humanité. Comme le disait Frossard, il doit mourir parce qu'il est né juif. L'impunité des responsables de ces crimes a été trop communément la règle. Dans l'ordre national, on a jeté le manteau de Noé pour des raisons de politique intérieure au moment de changement de régime ou d'effondrement de dictature, afin de recommencer, dit-on, dans une atmosphère qui ne prend pas en compte les crimes du passé. Dans l'ordre international, on s'est accommodé de cette impunité de criminels au regard des intérêts qui dominent la réalpolitik. Et pourtant, cette impunité, elle défie la justice, elle est un outrage aux victimes, et elle offense l'humanité tout entière. D'où le vœu qui n'a cessé de monter au long du siècle de la création d'une cour pénale internationale qui jugerait les responsables de ces crimes contre l'humanité et les grands criminels de guerre. À cet égard, il y a dans l'histoire des précédents, des esquisses qui méritent d'être relevées, le premier ébauche d'une cour internationale jugeant ce que l'on appelait alors les crimes contre le droit des gens, on le trouve en Alsace, du temps de Charles le Téméraire, où le bailli Pierre de Hagenbach a été jugé ainsi pour les crimes qu'il avait commis à l'encontre des habitants de plusieurs villes libres, sans distinguer selon la nature ou la personne des victimes, mais au regard de la violation du droit des gens. Et le jury était composé de représentants des villes martyrisées par lui, Strasbourg, Colmar et Bâle. Dans le traité de Versailles, l'on a inscrit une disposition, l'article 227, pour juger Guillaume II. Le texte disait, pour offense suprême contre la morale internationale, le texte n'a jamais été appliqué, et pour cause, mais la pensée juridique a commencé à s'exercer sur cette construction difficile, mais moralement nécessaire, la création d'une cour permanente qui jugerait les criminels contre l'humanité. En 1926, l'Association internationale de droit pénal, qui réunissait son congrès inaugural à Bruxelles, avait entendu 12 rapports sur la création de cette cour. Et à la SDN, à plusieurs reprises, l'idée avait été reprise, mais après l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie et du ministre des Affaires étrangères Barthou en 1934 en France, le gouvernement français a proposé la création d'une cour pénale internationale pour juger les auteurs d'actes de terrorisme. Et deux conventions ont été conclues en 1937, dont une prévoyait la mise en place de la cour. Nous étions à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a bien entendu pas vu le jour. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la conscience de plus en plus forte de l'horreur des crimes commis, et notamment le génocide juif et celui des Tziganes, ont suscité la conférence de Londres de 1943, où les Alliés ont décidé le principe de la création d'un tribunal des Nations Unies pour juger les criminels de guerre et contre la paix. Le droit applicable se référait au principe des droits des gens découlant des usages établis entre les nations civilisées. On évoquait les lois de l'humanité et, ce qui est plus juridique, les principes de droit pénal reconnus par les nations civilisées. C'est de ces accords de Londres que sont nés les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Le premier a été indiscutablement un pas en avant décisif parce qu'il a réussi à faire prendre conscience qu'il était possible, même pour des vainqueurs jugeant des vaincus, en leur personne, de juger les crimes contre l'humanité et de respecter ces principes reconnus par les nations civilisées qui forment la culture juridique internationale. Certes, encore une fois, il s'agissait de jugements de vainqueurs, mais le respect scrupuleux des droits de la défense a fait qu'à travers le temps, les documents et la procédure suivie à Nuremberg font encore référence. Le 9 décembre 1948, à la veille de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, fut adoptée à Paris par l'Assemblée générale des Nations Unies la Convention pour la prévention et la répression du génocide. Et l'article 6 prévoyait la création d'une cour criminelle internationale qui serait compétente à l'égard des États ayant reconnu sa juridiction. On pouvait penser que la cour était née, mais c'était fin 48. L'on était entré dans la guerre froide. Il était impossible, au regard de la situation internationale existante et en particulier au regard de l'affrontement permanent au sein du Conseil de sécurité entre les États occidentaux et l'Union soviétique, d'espérer qu'une pareille institution puisse voir le jour aussi longtemps que la guerre froide se poursuivrait. Et en effet, alors que les juristes poursuivaient leurs travaux, l'on a assisté à un gel complet au niveau du Conseil de sécurité et plus généralement des Nations Unies des progrès de l'entreprise de création de la Cour pénale internationale. Tout est redevenu possible avec la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'ancien empire soviétique. Le moment décisif a été celui de la guerre qui a ravagé l'ex-Yougoslavie. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique internationale a pris conscience que, en Europe même, pas d'un demi-siècle après Nuremberg, se commettaient, presque sous les yeux du public, des crimes contre l'humanité, qu'on croyait au moins en Europe révolue. Le constat de ces crimes a été effectué par la commission présidée par M. Mazowiecki pendant l'été 1992. La décision a été prise, en fait, pendant l'automne 1992, de créer une cour qui aurait à juger les auteurs de crimes contre l'humanité commis dans le cadre de l'ex-Yougoslavie. Une résolution du Conseil de sécurité du 22 février 1993 a utilisé le chapitre 7 de la charte et décidé la création du tribunal pénal international chargé de juger les auteurs des crimes commis dans l'ex-Yougoslavie en faisant référence à l'absence de justice comme faisant peser une menace sur la paix et la sécurité internationale. Je crois qu'on n'a pas assez relevé l'importance de ce considérant. La justice devient un élément nécessaire, et l'on pourrait presque dire fondateur, de la paix et de la sécurité internationale. La même démarche fut adoptée pour le Rwanda, en 1994, en présence de l'atroce génocide commis, un rapporteur spécial, comme dans le cas de l'ex-Yougoslavie, a été nommé par les Nations Unies. Enquête a été faite sur les crimes. On a rassemblé à cette occasion certains des éléments de preuve nécessaires et le tribunal pénal international a été créé le 8 novembre 1994. Également par une résolution du Conseil de sécurité faisant référence au chapitre 7 de la charte. Quel bilan à ce jour ? Au départ, régnait plutôt le scepticisme. L'on évoquait l'absence de volonté politique sérieuse de la part des grands États de poursuivre les responsables de ces crimes. L'on soulignait le défaut de moyens dont souffraient ces juridictions. Et cependant, quand on regarde aujourd'hui les résultats, ce scepticisme a été démenti. Et aujourd'hui, l'on constate qu'il s'agit là de juridictions qui sont reconnues par la communauté internationale et auxquelles on se réfère. Les chiffres sont clairs. S'agissant du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 83 personnes ont été mises en accusation, 6 sont décédées, 18 non-lieux, 59 font l'objet de poursuites, 6 condamnations ont déjà été prononcées, une définitive, 5 sont en cours d'appel, un acquittement. 26 détenus, 8 mandats internationaux, en particulier à l'encontre de Karadzic et Vladic. Mais aussi, il faut le souligner, un corps de décision juridique très importante pour l'avenir, et notamment l'arrêt Tadic, qui a jeté un certain nombre de bases pour l'action de la Cour pénale internationale permanente à l'époque dont on rêvait. Du côté du Rwanda, le tribunal d'Arusha, qui avait lui aussi engendré un tel scepticisme, à ce jour, son bilan est Là, 45 mises en accusation, 33 détenus, 3 procès contre des responsables très importants, et notamment un Premier ministre, un ancien Premier ministre, qui a été reconnu coupable de génocide et condamné à la prison à perpétuité. Le bilan de ces deux juridictions ad hoc est ainsi un bilan positif. Pour ceux qui avaient milité en faveur de la création de ces institutions, ce n'était pas une surprise. Face au scepticisme, nous opposions le fait que toute juridiction, quelle qu'elle soit, tend toujours à étendre autant qu'elle le peut sa compétence et son champ d'action. Et que dès lors que serait né ce tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, nécessairement, il essaierait, dans toute la mesure de ses moyens, d'agir à l'encontre de l'impunité des criminels contre l'humanité pour les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie. Quels moyens ? La question revenait toujours. Là, c'est un autre élément déterminant qu'il fallait prendre en ligne de compte. La révolte de l'opinion publique internationale qui n'accepte tout simplement pas que des criminels contre l'humanité puissent connaître ainsi une vieillesse paisible, honorable, entourée de l'amour des leurs et de l'estime de leur voisinage. Cette représentation insulte les souffrances des victimes et révolte les consciences, et c'est là sans doute le moyen le plus sûr pour la justice internationale de progresser. Le refus de l'opinion d'admettre que les criminels puissent connaître l'impunité. Mais le défaut de ces tribunaux ad hoc était que ils se trouvent par définition limités dans leur mission par la décision de création. Ils n'ont pas la compétence étendue que l'on souhaite, et surtout, ils ne sont pas permanents. Or, n'étant pas permanents, mais créés après coup, après la commission des crimes, évidemment, ils n'emportent pas la même fonction dissuasive, la même force de dissuasion que celle qui s'attache à une cour pénale internationale permanente qui, elle, signifie par son existence même à tous ceux qui seraient tentés d'exécuter des ordres qui impliquent la commission de crimes contre l'humanité, qu'ils seront poursuivis et qu'ils le seront leur vie entière et partout. C'est là le grand acquis d'une cour pénale internationale permanente. C'est le fait que lorsqu'elle aura vu le jour, ceux qui, au niveau, par exemple, aux juridictions nationales, et si pour des raisons politiques, on décide dans le pays de pratiquer une politique d'oubli, à ce moment-là, ils seront comme des rats prisonniers de leur trou. Jamais ils ne pourront sortir de leur refuge sans s'exposer à être aussitôt arrêtés et jugés par la juridiction internationale. Ce sont ces considérations et l'activisme des organisations non gouvernementales et de tous ceux qui sont convaincus qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice, qui ont amené la création de la Cour pénale internationale. Les travaux, en effet, remontaient de longue date en arrière dans les milieux juridiques, mais ceux plus spécifiquement liés à la création de la Cour pénale internationale ont commencé en 1994. Difficulté était évidente, considérable, des obstacles apparemment insurmontables. Il y avait d'abord celui que l'on invoquait le plus volontiers. Le temps de la diplomatie et les exigences de la diplomatie, disait-on, ne sont pas les mêmes que ceux de la justice. La paix d'abord, voilà la préoccupation des hommes d'État et des diplomates. La justice ensuite, peut-être. Et l'on disait, comment arriver à provoquer un accord international qui mette un terme au conflit si au moment même où l'on pousse les négociateurs des partis à s'entendre, l'on prépare déjà les cellules et le box des accusés ou leurs exécutants, leurs alliés, leurs complices, voire eux-mêmes, sont voués à se trouver un jour prochain. Opposé à cette argumentation réaliste, ceux qui croient dans la vertu pacifique de la justice répondent à juste titre, il ne peut pas y avoir de paix durable là où la justice n'est pas passée. Pas de paix sans justice. D'autres États invoquaient la réduction de souveraineté. L'impérium se traduit d'abord par le glaive de la justice et transférer celui-ci à des juges internationaux, s'agissant de crimes de cette importance, c'était en quelque sorte, pensait-on, pour les États souverains, abdiquer. Et aussi, mais on le disait moins hautement, perdre une partie de leur liberté d'action, car ensuite, on pouvait se trouver avoir à rendre des comptes, sinon de complicité, en tout cas de passivité, dans le cadre des opérations réalisées pour le maintien de la paix. Il y avait donc des réactions très négatives au départ, et notamment des plus considérables puissances, et surtout de la première d'entre elles, les États-Unis, mais aussi la Chine, la Russie, et il faut le reconnaître, la France était incertaine. La création d'une Cour pénale internationale correspondait à son engagement multiséculaire en faveur des droits de l'homme. D'un autre côté, il y avait le risque pour une puissance qui intervient militairement dans bien des théâtres d'opération de voir son action éventuellement mise en cause et les militaires appelés à témoigner devant des juridictions habituées à procéder par la voie de la cross-examination, ce qui n'est pas absolument conforme à la tradition qui veut que les militaires, eux, ne rendent compte qu'à leur chef. Dans cette situation complexe, c'est ouverte à Rome en juillet 1998, la grande conférence sur la création de la Cour pénale internationale avec bien des manœuvres diplomatiques en coulisses. Il y avait un groupe d'États extrêmement actifs qu'on appelait les « like-minded » et qui voyait se rejoindre l'Union européenne, le Canada, l'Australie, la Suisse, l'Argentine, les Africains francophones, l'Afrique du Sud, qui soutenaient non seulement la création de la Cour, mais sa compétence universelle. Les États-Unis, sans se déclarer contre la création de la Cour, voulaient que celle-ci soit en quelque sorte un instrument judiciaire à la discrétion du Conseil de sécurité, où les États-Unis ont, comme chacun sait, une voix fort influente. Hostile radicalement la Chine, d'autres États, et de la part des ONG, une sorte d'incertitude. Fallait-il accepter une Cour dont la compétence et les moyens s'avéreraient insuffisantes dès le départ? Devait-on se résigner à ainsi voir naître un instrument qui ne satisferait pas toutes les aspirations de ceux qui veulent une véritable justice internationale à l'encontre des criminels contre l'humanité? Disons-le, même lorsque l'on boite, l'on avance. Et mieux valait donc voir naître une Cour qui ne répondrait pas à toutes les exigences que l'on est en droit de formuler que de ne pas avoir de Cour du tout. Finalement, l'accord se fit, beaucoup grâce à l'action du Canada, de l'Argentine et de l'Union européenne. La France joint un rôle actif. Elle avait pris une position définitive en faveur de la création de la Cour et a joué à cet égard un rôle qui n'est pas négligeable. Enfin, le projet de traité fut soumis au vote et, à la surprise générale, le résultat fut infiniment plus brillant qu'on ne l'espérait. Sur 160 États présents, 120 se prononcèrent en faveur de la création de la Cour. 7 seulement votèrent contre: les États-Unis, la Chine, l'Inde, Israël, le Bahreïn, l'Émirat de Qatar et le Vietnam. 21 pays arabes se sont abstenus. Alors, la Cour doit siéger à La Haye, comprendre 18 juges, un procureur indépendant, aux fonctions très importantes, nommé par l'Assemblée générale des Nations unies. Sa compétence s'étendra au génocide, au crime contre l'humanité, au crime de guerre et au crime d'agression. En ce qui concerne ce dernier, il était revendiqué par un certain nombre d'États. Le risque est évident de voir à ce moment-là la Cour saisie d'accusations qui, en réalité, ne seront que le transfert sur la scène judiciaire de conflits diplomatiques permanents. Et il fut décidé que la définition du crime d'agression serait confiée à une commission préparatoire et que l'on reviendrait ultérieurement pour adopter éventuellement cette définition. De toute manière, il fut décidé que le crime d'agression devait être constaté par le Conseil de sécurité. Problème essentiel, celui du déclenchement des poursuites. À cet égard, les États les plus convaincus, les plus activistes, soutenaient la compétence universelle de la Cour, c'est-à-dire la possibilité pour la Cour de s'auto-saisir de n'importe quel cas, quel que soit le lieu du crime, quelle que soit la nationalité des criminels. L'Union européenne, en particulier, militait en faveur de la compétence universelle. D'autres prenaient une compétence large. La Cour était compétente dès l'instant où l'un des États partis au traité serait celui où le crime est commis, ou celui dont les criminels sont les ressortissants, ou celui de la nationalité des victimes, ou encore celui de la résidence des criminels. Compétence, on le voit, ainsi importante. Finalement, on accepta une compétence limitée de la Cour, si l'un des États partis est celui où le crime a été commis ou celui dont le criminel est le ressortissant. Mais il faut rappeler que la Cour est toujours compétente si elle est saisie par le Conseil de sécurité. Au regard de l'étendue de la mission de la Cour, il faut toujours conserver en mémoire que le rôle de la Cour est éminent, mais en quelque sorte subsidiaire. C'est d'abord aux États partis de faire régner la justice et à eux de juger les criminels qui relèveraient de leur compétence juridictionnelle interne. C'est simplement, mais c'est considérable, dans le cas de leur carence, soit volontaire, soit due à leur impuissance à assurer cette justice, que la Cour pénale internationale jugera. La question de la saisine était évidemment politiquement très riche de sens. Plus la saisine est étendue, plus la Cour pénale internationale, dans les faits, pourra exercer sa juridiction. Alors, on a adopté un système complexe. La Cour peut être saisie par le Conseil de sécurité, sur plainte d'un État parti, et surtout, et c'est là, je pense, l'essentiel, à l'initiative du procureur lui-même. Ce point a fait l'objet de bien des débats, parce qu'on redoutait, du côté d'un certain nombre d'États, que le procureur ainsi nommé puisse de lui-même ainsi ouvrir des poursuites qui ne manqueraient pas de susciter éventuellement des conséquences internationales difficiles à gérer. Il fut donc décidé, à la demande d'ailleurs de la France, que les pouvoirs du procureur de déclencher les poursuites et de saisine de la Cour seraient exercés sous le contrôle ou avec l'autorisation d'une chambre composée de juges et qui ainsi pourrait apprécier en toute objectivité si l'on se trouvait en présence d'éléments qui laissent à penser qu'il y a effectivement eu commission de crimes contre l'humanité. Voilà le complexe système mis en œuvre. La procédure, elle relève pour l'essentiel du système accusatoire. Cependant, comme je viens de le mentionner à propos de l'action du procureur indépendant, il y a des éléments qui s'inspirent du système procédural français. Les critiques n'ont pas manqué, évidemment, au lendemain de l'adoption du traité. On a regretté l'absence de compétences universelles. On a considéré comme trop limitée la compétence adoptée au regard des États, lieux de commission ou État de la nationalité du criminel. Par ailleurs, on s'est inquiété ou interrogé sur la portée de l'article 124 du traité qui prévoit que pendant 7 ans, un État peut décliner la compétence de la Cour pénale internationale s'agissant de crimes de guerre. Cette réserve a laissé pensif, et notamment s'agissant de la France qui a déclaré vouloir l'utiliser. Il est absolument inconcevable que ainsi la France puisse s'interroger sur d'éventuels crimes de guerre qui seraient commis par des militaires français en opération. C'est contraire même à l'idée que l'on se fait des missions qui peuvent être données aux forces armées. Et puis, d'autre part, comment concevoir une période transitoire quand il s'agit d'entrer dans un système de justice internationale, comme s'il fallait se préparer pour pouvoir supporter les contraintes économiques d'une union telle que l'union monétaire. Ce n'est pas concevable. Et j'espère que la France renoncera à user de cette faculté au moment de la ratification. On s'est aussi beaucoup interrogé sur les pouvoirs du Conseil de sécurité de suspendre l'enquête et la poursuite diligentée par le procureur pendant 12 mois, renouvelable d'ailleurs, dans l'intérêt de la paix. En vérité, c'était une façon de rassurer certaines inquiétudes, en fait mal fondées. Pourquoi ? Parce qu'on ne conçoit pas que le Conseil de sécurité puisse ainsi arrêter le cours de la justice en évoquant l'intérêt de la paix dans la pratique. Et compte tenu de la composition du Conseil de sécurité, une telle décision de suspendre des poursuites en cours me paraît difficile à pouvoir être prise. Au regard de ces critiques, les sujets de satisfaction. D'abord, il faut marquer que les organisations non gouvernementales, si active dans le domaine de la lutte contre les crimes contre l'humanité, pourront jouer un rôle auprès de la Cour pénale internationale. Elles assumeront la fonction d'amicus curiae. Le procureur pourra en effet mener son enquête au vu des informations recueillies par les ONG. Ce n'est pas, j'en suis sûr, un des moindres facteurs de succès dans l'avenir de l'action de la Cour pénale internationale. On relève aussi la création nouvelle d'un fonds au profit des victimes des crimes contre l'humanité. Là encore, il s'agit d'une initiative française. Enfin, comment ne pas relever que dans le cadre de ce traité international, je le rappelle, signé par 120 États, on a refusé, s'agissant des crimes les plus graves qui puissent être commis, les crimes contre l'humanité, génocide, massacre, on a refusé d'adopter la peine de mort. C'est la conscience internationale qui ici s'est prononcée en une circonstance solennelle et à l'égard des crimes les plus graves contre le recours à la peine de mort. Ce n'est pas un des moindres acquis du traité de Rome. Et enfin, marquons qu'il s'agit là d'une grande victoire des droits de l'homme et de leur universalisme. Car il s'agit bien des violations les plus graves qui se puissent commettre des droits de l'homme, et c'est au nom de l'humanité tout entière que cette fois-ci, les criminels contre cette humanité seront jugés. Ils ne comparaîtront plus devant leur vainqueur, comme c'est le cas déjà pour les tribunaux de La Haye, s'agissant de l'ex-Yougoslavie ou de Rwanda. C'est la communauté internationale qui les juge. S'agissant de la Cour pénale internationale, c'est véritablement comme la conscience permanente de l'humanité qui s'exercera dans l'action judiciaire introduite contre ceux qui ont violé de la façon la plus atroce ce qui constitue le cœur même de l'humanité. Et comment ne pas mesurer le progrès réaliser le rêve de tant de générations de juristes accomplis, quand pour la première fois, on verra dans le box des accusés, répondant de ses crimes devant l'humanité entière, incarné par ses juges, le premier criminel contre l'humanité se lever et répondre enfin de ses crimes. On pourrait dire, évoquant la formule en usage dans les pays anglo-saxons, c'est l'humanité contre, l'humanité contre qui? L'humanité contre les nouveaux Pol Pot, les nouveaux Mobutu, les nouveaux Goering, les nouveaux Pinochet. Quelle victoire pour la justice et quelle victoire pour le droit.